Rendez-vous, citoyens! Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien.
Bonjour, FPP 106.3 FM, émission Rendez-vous, citoyens. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, en différé le troisième mardi de chaque mois, 10h-11h, et partout dans le monde en direct sur rfpp.net. Une émission qui s'intéresse à tout un chacun, individu, collectif, association, engagé dans les enjeux de transformation sociale. Aujourd'hui, le titre de l'émission, ressourcerie, recyclerie. Pour en parler, on accueille Paul Dumayet. Ouais. Bonjour Paul.
Bonjour.
Donc tu es salarié au sein du REFER.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que le REFER ?
Alors le REFER, c'est un réseau de ressourceries d'Île-de-France qui s'est créé il y a 4 ans.
D'accord. Et ça veut dire réseau francilien de réemploi.
Ouais,
du réemploi.
Voilà.
Et à côté de toi, Delphine Terlizzi.
Terlizzi, tout à fait.
Très bien. Donc tu es responsable des ressources humaines à la Petite Roquette.
Oui, tout à fait, coordinatrice de l'association.
Qu'est-ce que c'est cette Petite Roquette?
C'est une des ressourceries d'Île-de-France.
Vous êtes installée?
Nous, on est 125 rue du Chemin Vert dans le 11e arrondissement, métro Père-Lachaise.
Et alors, vous existez depuis combien de temps?
Alors nous, la Petite Roquette, elle a une histoire un peu plus longue. Elle existe depuis 2006, pardon.
Ouais.
Et vraiment, la ressourcerie s'est créée bien plus tard, donc en 2012.
2012, voilà. La ressourcerie, c'est ça. Et vous êtes au départ, tu m'as expliqué avant, un collectif d'artistes un petit peu.
Oui, au départ, on est plutôt un collectif d'artistes et on avait squatté donc, un bâtiment dans le 11e arrondissement. Donc, on est resté 6 ans dans notre bâtiment, donc assez long avec un conventionnement de la ville les 3 dernières années. Et puis, on a eu ce projet de ressourcerie et la ville nous a prêté un local pendant 2 ans pour pouvoir mettre en place le projet qui a donc évidemment super bien marché. Et à la suite de ça, on a pu voler un peu de nos propres ailes et on a pu payer un loyer. Donc, on est passé dans la légalité et maintenant, on est installé.
Un gros loyer.
Un gros loyer, oui.
C'est un très, très gros loyer.
Un gros loyer, oui.
Hein, pour les auditeurs, ce n'est pas de la rigolade, les ressourceries.
Non,
ça brasse de l'argent quand même.
Ouais, exactement. Là, il faut en vendre des trucs à 50 centimes.
Voilà. Et alors, l'envie derrière ça de s'intéresser aux ressourceries
Nous, c'est né, de toute manière, le collectif d'artistes déjà travaillait beaucoup autour de la récup, faut quand même le dire. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache que c'est qu'une ressourcerie, mais à la base, tout le monde travaillait sur la récup. Et puis, nous, quand on a eu notre local qui nous a été prêté par la ville de Paris, eh bien, on ne pouvait plus loger les gens. Alors nous, notre objectif à la base, c'était de loger des gens et en échange aussi d'avoir un lieu culturel, donc où il y avait des expos, des salles de répétition, etc. Et puis, quand on a déménagé, on ne pouvait plus avoir de logement puisque c'était trop petit. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui sont investis, etc. Eh bien, faut peut-être qu'on va créer un emploi, en fait. Et on a réfléchi à quelle activité on pourrait faire autour de l'emploi et aussi autour de la récup, qui était notre quotidien. On récupérait les légumes au supermarché d'à côté. Chaque chaise, chaque table qui était ramenée au squat était forcément issue de la rue. Donc, c'était déjà un truc qui était en nous. Ouais. Et puis, un jour, je suis rentrée dans une ressourcerie, celle du 18e, complètement par hasard, parce que j'habitais pas loin. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça allie tout ce qu'on sait faire. Et du coup, ça ne doit pas demander une technicité de dingue. Bon, après, on a vu que ce n'était pas si simple.
Ouais.
Mais au début, on a commencé comme ça. Et on a pu salarier des gens, puisqu'on était 3 au début et on est 21 aujourd'hui. Donc, ça marche plutôt bien.
Et, le REFER, donc, Paul Dumayet, tu représentes le REFER, donc le réseau francilien de réemploi.
Ouais.
Donc aujourd'hui, c'est combien de...
38 structures de réemploi.
38 structures.
Ouais.
Et du ressourcerie coup, ou recyclerie.
C'est ça, ressourcerie et recyclerie. Alors du coup, j'en profite pour faire un petit point sur ce que c'est qu'une ressourcerie, parce qu'effectivement, tout le monde ne connaît pas forcément bien. Mmh. Une ressourcerie, c'est c'est des associations qui ont pour objectif de faire du réemploi. Le réemploi, c'est quoi? C'est pas pareil que le recyclage. L'objectif, c'est de réemployer une deuxième fois les objets. Et donc de leur donner une deuxième vie, de rallonger leur durée de vie. Et donc l'objectif, c'est que les gens amènent leurs objets dans ces ressourceries et ces ressourceries les trient, font des petites réparations si c'est nécessaire et les redistribuent à très bas prix, voire parfois en faisant du don. Et donc, l'objectif des ressourceries, c'est un objectif écologique de réduction des déchets. Et donc, voilà.
Mais il y a une partie quand même de recyclage à la fin du processus. Les objets qui ne peuvent pas être réemployés, même, ni réparés.
Exactement.
Ils partent en circuit de recyclage.
Ouais, on les envoie en filière de recyclage, tout à fait. Et nous, on ne fait pas de recyclage à proprement parler sur place. On envoie dans les filières.
Vous envoyez dans les filières.
C'est le dernier maillon, d'ailleurs. On n'aime pas forcément toujours. Hein, on préfère toujours qui est les étapes d'avant, avant le recyclage, parce qu'on sait que le recyclage, c'est un peu la fin.
Ouais.
En même temps, vous débrouillez pour que ça aille dans les bonnes filières.
Évidemment.
Par matériaux, etc. Ouais. On y reviendra.
Bois, métal, matériel électrique, etc. Tu as des filières, en fait, pour chaque type d'objet. Ouais. Mais vraiment, nous, on considère que le recyclage, c'est la fin du processus de traitement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer d'allonger plutôt la durée de vie des objets.
Et les recycleries, c'est un petit peu la même chose, mais de façon plus ciblée, non ?
C'est ça. Alors, une recyclerie, c'est à peu près la même mission qu'une ressourcerie, sauf que c'est spécialisé dans un seul type d'objet. Donc, le jouet, par exemple, Rejouet, qui est une recyclerie, est spécialisée dans le jouet. Elle ne récupère que des jouets. La recyclerie sportive ne récupère que des
articles
de sport.
Elles sont installées où, ces recycleries, là ? Rejouet, donc ?
Alors, Rejouer, ils ont changé d'adresse.
Ils sont dans le 14e, non ?
Ouais, ils sont dans le 14e, mais ils n'ont pas déménagé il n'y a pas longtemps.
Mais ils sont toujours dans le 14e.
Ils sont toujours dans le 14e, ils ne sont juste pas sur la même adresse que la carte que tu as.
Et la recyclerie sport, là
c'est... Alors, la recyclerie sportive, elle est à Massy. Initialement, elle a toujours une boutique à Massy. Et avant, elle était dans le 14e au niveau dans les grands voisins. Mais ils sont partis des grands voisins parce qu'une partie des associations ont dû partir des grands voisins, comme vous le savez.
Donc, les grands voisins, c'est un ancien hôpital.
Dans le 14e, l'hôpital Saint-Vincent de Paul qui a accueilli pendant longtemps 80 associations, je crois. Et maintenant, il y en a moins. Il y a toujours une ressourcerie qui est accueillie par les grands voisins, qui s'appelle la ressourcerie créative. Et la recyclerie sportive est partie des grands voisins pour aller s'installer. Bah, d'ailleurs, leur inauguration, c'était la semaine dernière,
oui,
je crois. Et ils ont ouvert une deuxième boutique, donc dans le 17e.
Oui.
Voilà.
Donc sur Paris, dans le réseau, par exemple, sur Paris, vous avez combien le RFR, c'est combien de ressourceries ?
Recyclerie et ressourcerie ensemble, il y a 10 ressourceries recyclerie. Voilà.
Dans Paris et
dans
après,
Paris.
Et après sur l'île de France et sur
les 28 autres. Quoi.
Ouais, exactement. Voilà.
D'accord. On va revenir sur tout ça, on va écouter la complainte du progrès de Boris Vian, une musique de 1956, donc il avait déjà bien repéré ce qui allait se passer, ce qui était en germe déjà en 1956. Boris Vian.
La complainte du progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Sur FPP 106.3 FM, qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond? Ce n'est rien, ce n'est rien. On est toujours avec Paul Dumayet et Delphine Terlizzi. Donc Paul Dumayet pour le REFER, le réseau réemploi d'Île-de-France, et Delphine Terlizzi pour la petite roquette 125 rue du Chemin Vert. Donc on a entendu, on a compris ce qu'était une ressourcerie. La ressourcerie, elle récupère tous les objets qu'on n'utilise plus. Sans, au départ, tout est accepté.
Ouais, hein, c'est important de le dire, Paul, aussi. Ouais. Les ressourceries, elles ont donc une collecte généraliste, donc tout type d'objets, et non écrémente. Ça veut dire que les objets, même, c'est un peu du jargon techno, mais ouais, je vais expliquer.
La
non écrément, ça veut dire qu'on prend tous les objets, même quand ils sont abîmés.
Ah ouais. Et qui ne fonctionnent pas.
Parce qu'on considère que ces objets-là, on les récupère, on va peut-être pouvoir les réparer, déjà, de 1, et les remettre en circulation. Et si on ne peut pas les réparer, on les enverra quand même dans les bonnes filières de recyclage. Donc c'est pour ça que notre message, il est de dire que tout type d'objet peut être pris par une ressourcerie, et c'est pour ça qu'on a cette vocation écologique-là.
Et parce que quel est le constat, par exemple, en France, au niveau du déchet? Ouais. Et du recyclage ou pas, du réemploi ou pas, quel est le constat? Quels sont les chiffres, par exemple, de la masse de déchets en France?
Alors, la masse de déchets en France, j'allais pas commencer par celui-là.
Sors le chiffre que tu veux.
Alors, attends, c'est 37 millions, je crois. Oui, 37,7 millions de tonnes de déchets, de déchets ménagers produits par an en France.
Ménagers?
Ouais.
Tu parles pas des entreprises, donc.
Non. Alors, il y a les déchets ménagers représentent, je sais pas par contre le pourcentage sur le déchet global, mais les déchets les plus importants, c'est le déchet du BTP, qui produisent énormément de déchets, mais j'ai pas les chiffres devant moi là. Et donc la part de réemploi, on considère l'ADEME,
donc
l'agence chargée de la maîtrise de l'énergie
et de l'environnement.
Considère que 25% des objets pourraient être réemployés et seulement 2,5% le sont aujourd'hui. Donc on a une sacrée marge de progression encore par rapport à ça.
Ouais.
Et pourtant, alors du coup, la dépense déchets, c'est 16,7 milliards d'euros en France, dont 10 milliards d'euros de dépenses publiques.
Gros chiffre.
Ouais, c'est du très gros chiffre.
Et alors le circuit, est-ce que t'as une idée du chiffre du secteur de la ressourcerie?
Alors le budget global de toutes les ressourceries de France, je sais pas. Ce que je peux te dire, on économisait ces 25% de, si non, on, on réemployait ces 25% d'objets, donc que ces 25% ne deveniez plus des déchets, on économiserait 1,9 milliard d'euros. Donc ça, c'est un objectif.
Donc il y a de quoi payer des ressourceries, là.
Il y a largement de quoi de payer des ressourceries. Et en plus de ça, pour continuer un petit peu cette session chiffres, en plus de ça, les ressourceries créent beaucoup plus d'emplois que les incinérateurs ou les centres d'enfouissement. Pour 10 000 tonnes de déchets traités, tu aurais 850 emplois créés en ressourcerie et seulement 3 ou 1 pour les incinérateurs ou les...
Ah oui, la différence est gigantesque.
Gigantesque. Ah ouais. Gigantesque. Parce que forcément, les incinérateurs ou les centres d'enfouissement ne font pas le travail de valorisation, le travail de tri, le travail d'identification des pannes parfois, de petites réparations, etc. Et tout le travail de sensibilisation que font les ressourceries sur...
Et tout ça, c'est de l'emploi.
Et tout ça, c'est de l'emploi. Voilà. Et donc
finalement, ce bénéfice qu'on pourrait faire, on pourrait largement à la fois payer ses emplois,
ouais,
ouvrir d'autres ressourceries, ouais, et que ça coûte moins cher.
Ouais, exactement. Et j'ai un dernier scénario chiffré pour vous. Si on crée 2000 nouvelles ressourceries en France, ça créerait donc 70 000 emplois. Sur ces 70 000 emplois, dans le REFER, dans toutes les structures du REFER, on considère que... Quoi ? Donc, pas sur ces 70 000 emplois, mais nous, dans nos 38 structures, pour le moment, il y a 66 % de personnes qui sont en insertion. Ouais. Donc, ça veut dire 66 personnes qu'on sort du chômage longue durée.
Ouais.
Et on considère, depuis la loi Territoire Zéro Chômeur et tout le plaidoyer qu'a fait ATD Quart-Monde, qu'un chômeur longue durée coûte 15 000 euros par an à l'État français.
Ah ouais, là, on en fait des économies, là.
Là,
on nous parle d'économies, là, voilà. on sait où les faire, là.
Exactement. Donc, je vous laisse imaginer les économies que ça pourrait faire à l'État. Ouais. Moi, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure avec Martin.
Très bien, bravo. T'avais une bonne calculette.
Ouais, j'ai une bonne calculette. Si sur ces 70 000 emplois créés pour les 2000 nouvelles ressourceries, on arriverait à 693 milliards d'euros d'économie. Donc en
693 milliards, c'est sûr.
Millions.
Ah, c'est gros.
Non, 693 millions.
C'est bien déjà.
J'ai mis deux... très très gros là.
Non, oui, pardon.
Ah, c'est plus que le budget de l'État,
ouais,
là.
Non, c'est effectivement n'importe quoi. 693 millions d'euros.
Ouais, millions.
Voilà, en considérant que c'est 66% de personnes sur seraient en insertion. Voilà.
Ouais. Donc effectivement, c'est...
Pour les chiffres.
Donc on voit tout de suite par là que ressourcerie, c'est, ça, on va développer tout ça, mais c'est à la frontière de beaucoup de paramètres sociaux, la question sociale, la question de l'emploi, la question de l'écologie, et un circuit économique en soi. Hein. Justement, par rapport... Il y a d'autres modèles qui ont existé, qui sont un peu plus anciens.
Ouais.
En France, tout le monde connaît les Emmaüs.
Ouais.
Donc les Emmaüs ont inventé ce principe de la récup depuis longtemps dans une optique de justement très insertion.
Tout à fait.
Comment vous vous situez par rapport à cette approche Emmaüs ?
Alors,
qu'est-ce qui différencie ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Emmaüs vous a rejoint, hein, il faut le dire. Alors, aussi qu'il y a, ouais, un Emmaüs dans votre réseau.
Il y en a deux.
Dans le REFER.
Il y a Emmaüs coup de main et Emmaüs alternative. Donc les Emmaüs, ils sont comme... comme tu l'as dit, à la base très orientés sur la question de l'emploi des personnes, l'insertion. Ils se dirigent de plus en plus sur les questions écologiques. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont un impact aussi sur l'environnement à travers la réduction des déchets. Donc, ils ont à peu près les mêmes missions que les ressourceries. Mais leur identité de base, comme tu l'as dit, c'est surtout le volet social. Et les ressourceries ont aussi cet objectif, mais leur objectif premier, c'est la réduction des déchets. Et c'est pour ça qu'une des différences principales qu'on a avec les Emmaüs, même s'il y en a qui se dirigent doucement vers ça, c'est que nous, on a développé un système de traçabilité des déchets.
Ouais.
C'est-à-dire que tous les objets qui sont collectés en ressourcerie sont pesés. Et après, on met tous les poids des objets dans un logiciel. Et à la fin de l'année, ça nous permet de dire que, par exemple, la petite roquette permet d'éviter 260 tonnes d'objets. Et nous, c'est...
Rejeté.
Ouais.
Oui. 260 tonnes, éviter d'aller à la poubelle.
Voilà.
Ouais, ou dans les incinérateurs.
Tout à fait.
Voilà, exactement. Et donc ça, c'est pour les ressourceries et pour nous, le réseau, c'est cet outil de traçabilité, c'est un argumentaire qu'on a après auprès des pouvoirs publics de dire toutes ces ressourceries, donc les 38 du réseau francilien, permettent d'éviter des déchets et d'éviter d'incinérer, d'éviter d'enfouir avec toutes les conséquences écologiques que ça peut avoir.
Voilà, c'est ça. Effectivement, il me semble que le concept de ressourcerie, recyclerie se construit sur des nouveaux argumentaires hein, qui sont notre société aussi d'aujourd'hui, hein, avec cette question de l'environnement, ces questions d'économie et de nouveaux circuits à réinventer, une nouvelle approche de nos sociétés, etc. Tu voulais rajouter un point, Delphine, sur Emmaüs ?
Je voulais pas spécialement sur Emmaüs, mais sur le côté social, en fait, parce que je pense que toutes les ressourceries ont une vocation aussi sociale. C'est pas réservé, du coup, à Emmaüs. On a une volonté sociale aussi, tous. Alors, plus ou moins prononcée en fonction des ressourceries.
Voilà, mais social, ça peut être au-delà de l'insertion.
Ça peut être,
c'est aussi la rencontre, tout simplement.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le fait d'avoir, par exemple, des prix très bas, on laisse une accessibilité très facile à tous les publics. Donc, ça fait partie, pour moi, c'est un objet social. Voilà. Donc, après, on a tout type du public. Je ne sais pas si on y reviendra, mais chez nous, par exemple, ça va de l'étudiant à la mère de famille seule avec trois enfants, en passant par le bobo. Excusez-moi pour les bobos, mais je suis bobo aussi, donc tout va bien. le bobo éco-responsable qui n'a juste envie de pas polluer.
Vous êtes installé à la Bastille.
Oui, on n'a pas de problème avec ça. Donc, voilà, c'est aussi ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on a tout public, on n'a pas un public type, et c'est hyper accessible. Donc, c'est en ce côté-là, on est social. Après, nous, on a une petite particularité à la Pistroquette, c'est notre côté vestiaire, parce que nous, on distribue plus de 30 tonnes maintenant de biens de première nécessité à des gens qui en ont vraiment besoin, gratuitement. Et on a aussi des temps où on a de la gratuité totale pour tout le monde. Donc, ça aussi, ça rentre dans les actions sociales.
D'accord. Il y a un autre modèle aussi par rapport à ces questions de recyclage, de ressourcerie et tout, c'est le modèle du Brésil, les Catadores. Ouais. On avait invité sur l'émission Rendez-vous citoyen Olivier Bonjean qui a écrit un livre De l'or dans nos poubelles en 2011. Et il s'appuyait sur son analyse et à partir de l'exemple des Catadores. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, si vous savez un petit peu, et comment vous vous situez par rapport à ces Catadores ? Donc, des ramasseurs un peu plus de la rue, au départ, qui se sont organisés dans des filières de recyclage.
Alors,
hein, Paul ?
Nous, on réfère récemment, on a mis en place en plus de ça une forme d'échange, mais il faudrait que mes collègues qui ont fait ça soient là pour en parler, avec les Catadores du Brésil.
Qu'on a reçu
qu'on a reçu, qui sont venus à Paris, et nous, le réfère, une partie de l'équipe est partie au Brésil aussi pour voir le modèle là-bas, parce qu'effectivement, là-bas, Lula, l'ancien président du Brésil, a fait un gros travail pour la reconnaissance des Catadores dans le pays et de leur travail de tri, de leur... Donc, en gros, là-bas, c'est eux qui font beaucoup le travail de tri, de recyclage, de réemploi, et ils ont été valorisés politiquement, budgétairement, etc. Donc ça, c'est...
Ils ont un statut, surtout. Ils ont obtenu un statut qu'on est loin, nous, encore en France.
C'est ça. Ça, finalement, ça, c'est un modèle, d'une certaine façon.
Bien sûr, ça a créé de l'emploi, ça fait moins de déchets, tout va bien, en fait. C'est qu'un cercle vertueux. Où est le problème ? Il n'y a plus de problème, en fait.
Et malheureusement, en France, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. On a d'ailleurs, parmi nos adhérents au réseau, on a une asso qui s'appelle Améliore, qui fédère les bifins de Paris, donc qui sont l'équivalent des Catadores, des chiffonniers en France, qui fait donc un gros travail pour que on puisse reconnaître politiquement le travail de ces bifins, et notamment
les bifins.
Les bifins, c'est comme les Catadores.
C'est la même chose, c'est le nom français.
C'est le nom français. C'est le nom.
Oui, sauf que les bifins, donc c'est les ramasseurs dans la rue, qui font la.
C'est ça.
Ils sont. Il me semble qu'ils sont, pour le coup, un petit peu moins organisés malgré tout que les Catadores au Brésil.
Ils sont moins organisés, moins reconnus politiquement. Ils ont là, il y a un certain nombre de petites victoires qu'ils ont réussi à avoir, notamment grâce au travail d'Améliore et d'autres associations, pour qu'ils puissent avoir des marchés organisés à Montreuil, notamment au Crochavo.
Légal. Parce que souvent, c'est des marchés légaux qui se passent sur le boulevard de Belleville. Enfin, vous en voyez partout, porte de Montreuil, etc.
Oui, ils ont quand même une étiquette qui leur colle à la peau.
Il y a une étiquette. Et puis c'est assez mal vu par la population qui n'en veut pas, alors qu'ils trient quand même leur leur poubelle, hein, cette population. Ouais. Faut quand même pas oublier, hein, c'est ce qu'ils ont mal trié que les gens ont retrié derrière. Donc je vois pas en quoi ça pose problème. Et du coup, il y a très peu d'espaces de vente qui leur sont attribués, d'ailleurs quasiment pas. Mmh. Et c'est là-dessus aussi que l'association Améliore se bat. Pour avoir une reconnaissance, un statut. Donc effectivement, les Bifins, c'est à peu près le même. Ils font exactement la même chose, mais ils n'ont pas du tout de statut pour l'instant. Voilà. Ils n'ont pas de statut. Ouais. Alors qu'ils font un vrai travail de réemploi. Hein.
Ouais, c'est... Ouais. Et pour faire un travail de réemploi, la petite requête, c'est une grosse organisation. Hein.
Alors, c'est une grosse organisation.
Il y a des minimums à avoir. Il faut un grand espace, il faut beaucoup de bras.
Il faut beaucoup de bras.
Votre espace, par exemple, à la petite roquette, il fait combien ?
Il fait 1000 mètres carrés, notre espace, à la petite roquette. Ouais. Voilà, qui est consacré à l'activité ressourcerie. Alors déjà, il faut une boutique. Donc nous, elle fait 300 mètres carrés à peu près. Et ensuite, il faut un atelier pour trier tout ça. Donc, si on part du début de la chaîne, quand les gens arrivent avec leurs petits sacs, parce que nous, quand même, beaucoup arrivent avec des petits sacs hein, à la main. Voilà, c'est très local. Donc, c'est surtout des gens du quartier. On tous, 85% de nos donateurs sont du quartier et du 11e arrondissement. Donc, voilà, c'est marginal, le reste des arrondissements. Et quand ils arrivent, du coup, ils passent à la pesée. Hein, c'est la première chose à faire. Donc, on pèse tous les objets et on pèse aussi toutes nos poubelles. Mais j'expliquerai à la fin du processus. Donc, les objets sont collectés. Donc, on rentre tout ça dans le logiciel avec les chiffres. Ensuite, les objets vont aller dans la bonne catégorie. Hein, ils appartiennent tous à une catégorie. Alors, on en a 8, 10 en fonction des ressourceries. Mais en gros, vous avez les livres, les meubles, le textile, autres, toujours une catégorie autre, parce qu'on a toujours des objets totalement insolites. Tout ce qui est multimédia, on va avoir l'électroménager, l'informatique, les jouets. Voilà toutes les catégories. Donc, ça va déjà pré-trier dans sa catégorie. Et ensuite, ça descend à l'espace de tri chez nous. Et chaque objet va aller être trié dans sa catégorie. Alors, chaque espace de tri est un peu toujours organisé pareil. C'est-à-dire qu'on a un lieu où les choses arrivent non triées. On a un espace de tri, donc une table, ça dépend du tri qu'il y a à faire. Mmh. Et ensuite, on a un espace qui sort pour aller en boutique. Et un espace qui va dire, eh ben ça va au recyclage. Et c'est toujours un peu organisé.
Recyclage, c'est-à-dire voilà. D'autres chaînes la extérieures, filière, parce que là, vous ne pouvez pas le réemployer,
exactement.
Vous ne pouvez pas le vendre.
Ça ne marche pas. Ça marche pas. On donnera des exemples, mais voilà. Donc après, chaque poste de travail est organisé toujours de la même façon. Donc après, il faut remonter tout ça en boutique.
Donc c'est aussi donc, beaucoup de bras.
C'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes, d'ailleurs.
Combien de personnes à la recyclerie?
Alors, nous, on est
pour cet aspect ressourcerie.
Nous, on est... Ah oui, juste pour la ressourcerie.
Bon,
ouais.
C'est pas grave. Donne
on a d'autres activités, mais...
On va dire tout de suite, vous avez aussi des activités de...
Oui, on a des activités d'animation, on a un café-atelier
Vous avez un
beaucoup,
petit café à côté où vous faites aussi de la récup pour le coup.
On fait surtout des ateliers de réparation et tous les ateliers autour de la récup.
Et de la récup pour faire la cuisine.
Et la cuisine, puisque notre restaurant fonctionne à 97% avec de la récup alimentaire des commerces du quartier avec lesquels on a signé une convention. Donc voilà, on a quelques commerces
en
bio.
Combien de personnes pour faire
alors,
tout ça?
Alors, en tout, 21. Voilà, salariés. Et je parle...
Salariés.
Voilà, et je précise que les bénévoles sont précieux, donc je ne voudrais pas oublier de les citer ici. Nous, on a 30 bénévoles hyper actifs et en tout 60. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Et en même temps, c'est un vrai projet de société, la ressourcerie. Et ça a du sens pour beaucoup de gens de venir trier. Et ce que les bénévoles me disent quand ils viennent trier, et pourquoi ça leur plaît, c'est que c'est immédiat le résultat. OK, ouais. Les gens amènent, 4 heures après, c'est en bas à l'atelier, 6 heures après, c'est trié, et 8 heures après, c'est de nouveau dans la boutique. Ça ne disparaît pas en Afrique, pour citer que cet exemple-là, mais voilà, c'est un circuit hyper court, c'est immédiat, donc ils ont l'impression de pouvoir aider tout de suite, là, comme ça, et de faire vraiment quelque chose...
T'as dit le terme, hein, circuit court, c'est aussi circuit un concept court. Important aujourd'hui,
important.
Hein, c'est-à-dire pour diminuer l'empreinte carbone.
Tout à fait, hein,
pas d'avion, de train, tout non. ça, qui part, où on part recycler nos affaires en Inde ou en Afrique, comme tu l'as laissé entendre.
Oui, d'ailleurs, je vais me permettre quand même de le dire, mais ce qui part aux filières de recyclage, je suis toujours un peu inquiète. Hein, je ne peux jamais monter dans le camion pour savoir où ça va. Et je sais très bien que le D3E, une partie du D3E, donc le D3E, c'est déchets électroniques, je ne suis pas sûre qu'il soit recyclé en France, malheureusement.
Mais c'est ça, voilà, la partie que vous n'arrivez pas à...
C'est la partie obscure de notre métier, le recyclage. Ouais. Et je ne suis pas sûre que l'État fasse le boulot pour savoir si ça va bien au bon endroit et si c'est bien recyclé chez nous. J'ai des doutes, des sacrés doutes.
Bon,
j'aimerais monter dans les camions plus souvent. Voilà.
D'accord. Donc là, ça veut dire une cinquantaine, 60 personnes.
Ouais.
Bon, c'est pour indiquer à vos auditeurs que c'est une, C'est une vraie organisation, quoi. Oui. C'est vraiment...
C'est assez minutieux.
Hein, c'est gros,
et avec le temps, on a affiné le tri. C'est-à-dire qu'au début, on triait assez rapidement. Je vais prendre des exemples, tout bête. Bon, voilà les lunettes, par exemple. Voilà les lunettes. Mmh. Alors, les lunettes de vue, quand elles arrivaient, nous, on se disait, ça sert à rien, les lunettes de vue. Donc, on a cherché des filières qu'on n'a pas trouvées, d'ailleurs, mais maintenant, il en existe. On n'a pas trouvé, donc les lunettes, on les mettait à la poubelle. Et puis, quand même, il en arrivait beaucoup, beaucoup. Puis un jour, on s'est dit, on va mettre un bac avec des lunettes, puis on verra bien, hein, avec prix libre ou 50 centimes. C'est extraordinaire. Hein. Les lunettes d'occasion s'achètent par milliers. Enfin, on en vend des tonnes.
Ah oui.
Donc, vous voyez, au fur et à mesure des années, on a affiné le tri et on s'est aperçu que des choses qui, nous paraissaient pas vendables, parce que pas réutilisables, si, en fait. Voilà. Donc, tout se vend. Tout se vend. Tout se vend. Tout se vend.
On le voit d'ailleurs... on a pu faire chacun. Moi, j'en ai fait des expériences de vide-grenier comme ça. Et on est souvent très impressionnés, effectivement, de tout ce qui part. Quoi.
Oui, c'est ça.
On croit que ça va pas partir.
Oui,
on
si.
On ne sait même pas pourquoi on a ça. Et puis
et
ça
après,
part,
du coup, nous, on se dit toujours que ça a été acheté une première fois. Donc, ça avait forcément plu une fois. Donc, ça va forcément replaire une deuxième fois. Parce que vous avez quand même des fois un musée des horreurs au niveau des objets. Des choses très jolies. Hein, et ça nous fait un peu vibrer parfois. Parce que des fois, trier des choses pas belles, ce n'est pas très sympa. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas notre métier. Nous, on n'est pas là pour faire d'esthétique. On est là pour faire plaisir. Hein.
Et alors, donc, la petite roquette, c'est une des ressourceries qui a participé à l'éclosion du REFER que représente Paul à côté de moi. Le REFER, donc ce réseau de réemploi en Île-de-France. Ouais. C'est une dizaine de structures, c'est ça, qui ont commencé à construire ce réseau. Sur quel, à partir de